premier championnat de France que j'ai gagné, c'était chez les minimes, donc moins de 13 ans, et j'avais 9 ou 10 ans.
Salut, c'est Cléo et bienvenue sur Championne du Monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlètes, journalistes, médecins ou même ta mère, fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de nanas qui déchirent et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Souvent moqué ou dénigré, le tennis de table est un sport qui n'a pendant longtemps pas été reconnu à sa juste valeur. Alors que, paradoxalement, il s'agit peut-être de l'un des sports les plus faciles à pratiquer et de l'un des premiers sports que l'on nous fait faire à l'école. Mais n'ayons pas peur des mots, le renouveau du ping français est en marche avec, vous en avez peut-être entendu parler, les frères prodiges Alexis et Félix Lebrun. Sauf que côté femme, l'équipe de France n'est pas en reste et la jeunesse est également de mise. Prétika Pavad a seulement 19 ans et prépare déjà sa deuxième Olympiade à Paris. Oui oui, elle était déjà présente aux Jeux de Tokyo alors qu'elle n'avait que 16 ans. Et cet été, Prétika a atteint son meilleur classement en rentrant dans le top 50 mondial. Le ping coule littéralement dans ses veines puisque son père était également lui-même pongiste en Inde. Dans cet épisode, vous allez en apprendre beaucoup sur ce sport tout aussi impressionnant que technique et vous comprendrez pourquoi Prétika veut marquer l'histoire dans un sport totalement dominé par les sportives asiatiques. Une compétitrice née et une personnalité plutôt atypique pour son âge, ne cherchez plus, je vous présente la petite pépite à suivre dans les prochaines années. Salut Prétika.
Salut.
Comment ça va?
Ça va super et toi?
Ça va très bien. On est à l'INSEP.
Exactement.
Dans la salle de ping.
C'est ça.
Enfin, là, on n'est pas vraiment dans la salle de ping, on est plus dans une salle de...
meeting.
De meeting.
Voilà, les choses sérieuses.
Attention, attention. Et petit fun fact que vous ne pouvez pas savoir, parce que l'épisode sortira un tout petit peu en décalé, mais on est pile poil à un an avant les Jeux de Paris.
Ouais, bah, le timing est parfait.
On est quand même sur une date un peu symbolique, quoi.
C'est ça.
Ça te fait quoi? Ça te fait quelque chose ou tu t'en fous?
Non, forcément, c'est, on va dire, une date particulière. Après, on va dire, le meilleur reste à venir.
Ouais, c'est ça, là, c'est, ça te paraît encore... Parce qu'un an, au final, c'est rien du tout. Enfin, une année dans une vie, c'est ridicule. Et en même temps, en un an, il peut se passer plein de trucs. Mm-hmm. Du coup, ça fait quoi? Ça fait loin? Ça fait court?
Ça fait en soi, ça fait court, je trouve. Parce que, bah, il y a quelques années, je me rappelle, je me disais, bah, c'est dans longtemps, Paris, ouais. J'ai le temps de me préparer, etc. Et là, en fait, ça arrive très vite. Donc, ouais, il faut prendre le temps quand même de bien se préparer, de progresser. Et puis, voilà.
On y reviendra après, bien évidemment, mais ça va t'envisager cette année sereinement?
Ouais, j'ai hâte. Là, j'ai vraiment envie de faire des résultats super bien. Donc, voilà.
Trop bien. Alors Prétika, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui.
Et avec plaisir.
Pas de soucis, c'est le job, quoi.
Non, c'est... Enfin, oui, une partie, mais aussi l'autre, c'est avec plaisir.
Oui, effectivement, bah, tu es sportive de haut niveau. C'est vrai que tu as le sport qui est quand même ton métier, on va dire, numéro un. Et il y a les interviews, le côté média aussi, que voilà, tu es un peu obligée aussi de faire à côté. Et bon, on va dire ton âge tout de suite, parce que c'est quand même une donnée aussi assez importante. Tu as 18 ans.
Oui.
Donc t'es jeune, hein. Très clairement, tu fais du tennis de table. Donc quand on disait on est dans la salle de ping, on parlait du ping-pong.
Excellent.
Mais plus communément appelé chez les pongistes, le ping.
Franchement, ouais, c'est ça, nous on l'appelle le ping, donc ça fait plus chill, plus cool et c'est sympa.
Je crois que t'as commencé le tennis de table, t'étais toute petite, t'avais 7 ans je crois, c'est ça? Famille de pongistes.
Bah, mon père, en tout cas, pongiste. Ma mère, elle n'a jamais fait de sport. On va dire qu'elle s'est intéressée au fur et à mesure. Et mon frère en a fait. Ma petite sœur, là, elle a arrêté. Donc, ouais, on va dire globalement une famille de pongistes.
Tu t'es mise au tennis de table parce que ton père en faisait. C'était une évidence pour toi, du coup, de commencer ce sport-là?
Non, on va dire que L'anecdote, on va dire sympa, c'est qu'on était dans un appartement, parce que là, on a déménagé il n'y a pas longtemps, mais tout près de chez nous, il y avait une salle de ping, en fait. Donc, on va dire que forcément, ça a attiré mon père à nous faire essayer ce sport. Et vu que j'ai vu mon grand frère en faire, j'ai voulu essayer. Et en fait, j'ai adoré, moi, personnellement aussi, ce sport, le contact avec la raquette, la compétition, tout ça. Donc, on va dire que c'est... on va dire que c'était un vrai coup de cœur.
Tu as été happé direct par le sport?
En vrai, avant, c'était pas forcément ma passion, mais quand j'ai pris la raquette, pour moi, c'était vraiment un vrai coup de cœur et j'ai adoré ça direct. Et c'est pour ça que là, je suis là aujourd'hui.
Ce qui est plutôt pas mal. Hein. Ouais, il s'est passé des jolies choses en 11 ans, ça veut dire. Ton père, je crois, il avait, c'était plutôt un bon pongiste en Inde, parce que du coup, tes parents sont originaires d'Inde.
Ouais, c'est ça.
Ça a été, il était professionnel ou pas?
Il en a fait, mais on va dire plus au niveau, soit de la ville, soit de la région.
D'accord. Départemental, du coup.
Oui, voilà, c'est ça. Il a pas trop fait de compétition internationale, etc. Mais il s'est toujours un peu tapé la balle, on va dire. Je peux m'amuser avec lui.
Ouais, tu l'éclates, ce qui veut dire...
On va pas le dire, parce que sinon, ça peut le vexer, mais voilà, quoi. On va dire que je peux quand même m'amuser avec lui, donc c'est le plus important.
À partir de tes 7 ans jusqu'à maintenant, toute ta vie, ça fait un peu drama de dire ça, mais c'est vrai que tout a tourné autour du ping.
Parce que clairement, à 7 ans, j'ai commencé, on va dire... peut-être m'entraîner 3-4 fois par semaine. Et après, au bout d'un an, 2 ans, quand tu fais de plus en plus de compétitions, tu t'entraînes des fois 2 fois par jour. Et puis, je crois que dès ma CM1, par exemple, j'ai commencé à aménager mon emploi du temps, ce qui était anormal, on va dire, pour l'école primaire, etc. Donc là, j'ai eu une directrice incroyable qui m'a aidée à faire des aménagements, justement. Et puis après, en 6e, je suis rentrée au Pôle Espoir. Donc là, on va dire, les choses sérieuses commencent parce que ça devient du sport-études, quoi. Donc tu fais 2 entraînements par jour, les études en même temps. Et puis voilà, on va dire, j'ai eu une progression croissante comme ça jusqu'à venir ici à l'INSEP où c'est... une priorité, quoi.
Ouais. C'est fou, tu disais, à 7 ans, t'avais déjà 3 entraînements par semaine, c'est un truc de dingue.
Oui, parce que en fait, on commence d'abord le bébé ping, on va dire, où tu joues un petit peu. Mais...
bébé ping, j'adore, c'est trop mignon.
Déjà, j'étais trop petite, donc tu te mets sur un petit step. D'accord. Et donc après, t'essayes de viser des cibles, des choses comme ça. Mais vu que c'est comme une activité un peu périscolaire, quoi, donc au final, au début, c'est pas super sérieux, mais c'est du loisir, donc on essaye de venir un petit peu. Et puis après, au fur et à mesure, si t'aimes ou pas, tu continues.
Ouais, j'ai jamais pensé en fait, mais la table de ping, c'est une table réglementaire. Pour les enfants, tu joues sur les mêmes tables ou t'as des baby tables?
Il y en a, mais on va dire qu'il n'y a pas de compétition dessus. Ouais. Quoi. Après, tu peux, même nous, là, quand on est grand, on peut jouer sur des petites tables pour le fun ou pour des défis, etc. Mais non, sinon, la table, elle est cadrée pour tout le monde. C'est la même chose. Quoi.
Ouais, ça doit être tellement mignon quand t'as 7 ans. t'es obligé de taper avec
Non, franchement, c'est trop bien. Hein. En plus, du coup, tu fais plein de jeux ludiques et tout. Donc, c'est sympa.
Tu dis, t'as tout de suite adhéré au sport. Est-ce que rapidement, après quand t'es petit, j'imagine, tu te dis pas je veux en faire mon métier, mais est-ce que c'est un truc qui est venu vite en tête chez toi en disant ah tiens, peut-être que je peux en faire de façon professionnelle et en vivre?
Comme t'as dit, on va dire à 7 ans, tu te projettes pas, on va dire, direct dans ce milieu-là, mais on va dire que quand je suis rentrée au Pôle Espoir en Ile-de-France, forcément là tu te dis, tu te poses la question. Est-ce que je veux en faire plus tard aussi de manière plus professionnelle? Et je pense que dès mes 10, 11 ans, peut-être plus 11, 12 ans, on va dire, je m'étais dit, j'aimerais bien continuer, en tout cas, voir où ça me mène. Et puis, c'est comme ça. Mais ça s'est fait aussi de manière progressive, quoi. J'ai pas forcément eu un déclic. Bien sûr, les résultats des compétitions m'ont, on va dire, aidé à choisir cette voie, etc. Mais après, ça s'est fait de manière progressive parce que t'apprends aussi, on va dire, les sacrifices qu'il y a à faire, le milieu dans lequel tu baignes, etc. C'est des choses, on va dire, que t'apprends au fur et à mesure de ta carrière.
Oui, parce que tu dis ça s'est fait progressivement, mais entre tes débuts et tes premiers jeux, parce que t'as fait Tokyo, on y reviendra aussi, il y a eu 9 ans.
Oui, non, ça c'est fou, mais c'est sûr que je pense que quand je me dis que j'ai déjà fait des JO, c'est incroyable. Moi, je m'imaginais plus faire 2024, en tout cas comme premier. Et je sais pas quoi dire parce que même moi, j'étais surprise, on va dire, d'avoir réussi à me qualifier.
Comment ça se passe dans ta tête d'enfant? Parce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est tes résultats aussi qui t'ont fait. rester dans ce sport et c'est ce qui t'a donné aussi envie de continuer parce que t'as performé hyper rapidement et t'as même surperformé parce qu'en fait t'étais tout le temps surclassée dans les catégories du dessus, c'est ça?
Ouais, bah les premiers championnats de France que j'ai gagnés c'était chez les minimes, donc moins de 13 ans et j'avais 9 ou 10 ans. Non, mais on va dire que évidemment je pense que je l'ai. Je suis quelqu'un de très ambitieuse, on va dire. Et comme j'ai dit, ce qui m'a fait aussi aimer le sport en général, c'est la compétition. Et forcément, avoir des bons résultats, ça m'a, on va dire, en quelque sorte,
réconfortée.
Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, ça m'a donné envie d'aller encore plus loin, d'aller chercher des titres encore plus grands, etc. Donc, ouais.
C'est la passion du sport et la passion de la compétition ou la passion de la compétition?
Peut-être plus la passion de la compétition, je pense.
C'est vrai.
Parce que... d'une manière générale, que ce soit même un jeu de cartes ou tout ça, j'ai envie de gagner, en fait.
Okay.
Après, bien sûr, j'adore le tennis de table. Mais comme j'ai dit, quand j'avais 5-6 ans, c'est pas le sport en général que j'aimais, quoi, on va dire. Que ce soit du foot, etc. J'aimais en faire, mais c'était pas forcément ce qui me motivait dans la vie. Et puis, quand le tennis de table est arrivé, là, c'est devenu presque comme une évidence, quoi, parce que je savais que j'adorais, comme j'ai dit, le contact avec la raquette, tout ça. Et donc, c'est quand même les deux, mais c'est aussi la compétition qui me motive tous les jours à aller plus loin.
T'as senti que t'avais des facultés, que c'était inné pour toi?
Au début, non. Pas vraiment, parce que... Ouais, quand t'es jeune, c'est difficile de se dire que t'as peut-être, on va dire, des capacités hors normes ou quoi que ce soit. Après, forcément, quand les gens te le répètent, tu finis par y croire. Après, moi, je pense que ma plus grande force, au-delà de peut-être ma main, etc., c'est que je pense que j'ai une tête, on va dire, correcte, dans le sens où je sais ce que je veux et donc je sais qu'il y a plein d'efforts à fournir, quoi.
Ouais.
Et... ouais, voilà, c'est ça. Je pense que tu peux pas avoir des choses si tu fais pas les efforts, etc. Et je pense que j'ai cette éthique du travail, etc., qui est assez ancrée chez moi. Et je pense que c'est aussi ça qui, on va dire, me fait continuer dans cette voie, parce que j'ai eu des moments où c'était moins bien, où par exemple là, il y a un an, etc., j'avais pas forcément des bonnes sensations dans mon ping, etc. Mm-hmm. Mais vu que j'ai jamais oublié, on va dire, mes objectifs dans ce sport, et c'est ça qui me donne la force à chaque fois, à chaque entraînement, d'essayer d'être meilleur, etc.
Ouais, c'est le mental.
Ouais,
on sent que t'as, quand tu dis j'ai une tête à peu près correcte, c'est ce qu'il y a dedans, quoi.
Ouais,
c'est que t'as la motive de réussir que tu te donnes les moyens d'arriver à tes objectifs.
Ouais, voilà, c'est ça.
C'est vraiment ton goal. En fait, est-ce que tu fonctionnes? C'est marrant parce que tu vois, le dernier podcast que j'ai fait, on m'a dit cette phrase-là, je fonctionne à l'objectif. Et c'est un peu ça pour toi aussi, c'est-à-dire que tant que t'as pas rempli un objectif, c'est pas bon.
Ouais, je suis exigeante avec moi, on va dire que y a pas mal de fois, on va me dire que j'ai fait un résultat correct, mais vu que c'est pas l'objectif que je m'étais fixé, je vais quand même être un peu déçue, quoi. Et vu que je déteste perdre et que chez les seniors, t'es obligé de passer par des défaites parce que tu peux pas. En fait, à chaque fin de compétition, t'es quasiment obligé de finir avec une défaite. Et ça, c'est, on va dire, quelque chose que j'ai dû aussi apprendre un petit peu. C'est, enfin, faut mûrir aussi avec les matchs qui viennent, les compétitions que tu fais, etc. Mais c'est vrai que quand j'ai un objectif, on va dire que ça m'aide à me transcender.
Comment on apprend à perdre quand on gagne tout quand on est jeune? C'est dur. C'est parce que effectivement, on n'a pas cité tous tes résultats, mais en fait, dans les compétitions juniors, on va dire en dessous de toutes les catégories seniors, t'as quasiment tout gagné. T'as été une des plus jeunes championnes du monde espoir, je crois.
J'ai pas fait championne du monde, mais j'ai eu des bons résultats chez les jeunes. Mais ça a été difficile, on va dire, d'accepter plusieurs défaites, etc. Mais comme j'ai dit, c'est en faisant, quoi, en perdant, en fait, que tu apprends. Parce que quand tu es habitué à des victoires, etc., tu n'as pas forcément la même remise en cause ou des choses comme ça, même si je l'avais vu que je voulais être encore meilleure, etc. Là, en perdant, du coup, c'est plus clair ce qu'il y a à travailler. Ça te fait aussi grandir, ça te donne une autre perception, on va dire, des matchs, etc. Tu ne viens pas avec le même état d'esprit, etc. Et... ouais, c'est en faisant des compétitions, d'une manière, c'est pas en enchaînant les défaites, mais c'est comme ça que j'ai su qu'il fallait que j'accepte, quoi, et que ça faisait partie du chemin, et que l'objectif, à la fin, c'est de remporter tes titres, mais on sait qu'une carrière, ça peut pas être tout le temps vers le haut. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Bah, c'est d'accepter et après d'avancer.
C'est vrai que tu as été mis un peu sous le feu des projecteurs assez jeune, parce qu'effectivement, tu as fait des super bons résultats. Tu as été qualifiée aux Jeux de Tokyo il y a deux ans, alors que bah, ce n'était pas forcément prévu. Je crois que tu étais 396e à l'époque.
Bah, j'ai peut-être fait deux ou trois compétitions seniors avant que la fédération me choisisse pour faire les qualifications. Et en plus, pour eux, c'était juste de l'expérience. Ils ne pensaient pas forcément que j'allais me qualifier. Quoi. C'était juste pour
surprise
voir.
Surprise
ce que... c'est ça. C'était plus pour voir ce que ça faisait de jouer des matchs à cette intensité-là, avec un enjeu pareil, etc. Mais ils n'imaginaient pas du tout. Et moi aussi, aller jusqu'au bout. Quoi.
C'est fou. Et comment t'as géré, on va dire, cette bascule entre les juniors, enfin on va dire les jeunes, et le niveau senior qui est autre chose, où il y a une concurrence qui est juste phénoménale. Les Européennes, elles n'ont jamais vraiment trop performé au niveau mondial. Comment tu gères ça? Comment tu as géré ça? Alors que tu étais encore, tu avais 16 ans, je crois, quand tu es passé senior.
En fait, la transition, je pense qu'elle se fait aussi par... Enfin, faut passer par aussi faire des matchs, justement, chez les seniors, parce que... On espère tous, enfin en plus j'étais à 16 ans, je me disais ouais, je suis sur une bande lancée, je vais réussir à battre des seniors, tout ça, enfin t'es excitée quoi, t'as envie d'aller voir ce que ça donne chez les adultes. Et bah là, c'est pas que tu prends une claque parce qu'on le sait d'un côté, mais quand t'es sur une bonne lancée comme ça, on va dire, c'est un peu difficile d'accepter que t'es encore loin. Mais ouais, comme j'ai dit, en fait, c'était juste, j'ai appris, on va dire, à faire avec. Avec la concurrence qu'il y avait aussi, parce que bah, elle est juste folle, comme tu as dit, les Asiatiques, elles surdominent. Après, là, en ce moment, il y a quelques surprises. Mais pour que les Européennes arrivent à faire des très bons résultats, c'est super dur. Je pense encore plus dur chez les filles que chez les garçons. Ouais. Et en fait, d'un côté, ça me motive aussi, parce que j'ai, comme les meilleures Européennes, j'ai envie aussi de marquer, on va dire, mon sport. Et en réussissant à faire quelque chose d'unique, ça peut l'être. Donc voilà.
Ça, j'aimerais bien aussi qu'on parle de ça, parce que c'est vrai que le tennis de table, c'est un sport, comment dire, sans être méchante. non, mais tu vois, qui en France, malheureusement, a pas vraiment ses... C'est pas les sports nobles, c'est pas les sports qui sont médiatisés, c'est le sport que tu fais à l'école.
Même au camping, tu vois, on va dire.
Au camping, effectivement, tu sors tes deux raquettes, tu tapes la balle, c'est un sport populaire, et effectivement, c'est un sport que tu apprends à l'école, tu fais tes montées-descentes de ping-pong à l'école, et donc du coup, j'ai l'impression que les gens ont une image assez négative. Est-ce que tu trouves justement qu'en France, l'image du tennis de table, elle est erronée en quelque sorte?
C'est difficile à dire parce que, en tout cas, moi, que ce soit mes proches, ou vu que je traîne énormément avec des pongistes, ou que quand je vais dans des salles, c'est des gens qui connaissent à peu près le sport, j'ai l'image qu'ils ont l'impression que, que c'est un sport qui est difficile aussi à pratiquer. Après, oui, je pense que à l'école, par exemple, quand on parle avec des gens qui n'y connaissent pas vraiment, ils ont l'impression qu'avec la main et juste en bougeant, tu peux être fort, alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais le seul moyen de leur prouver ça, c'est en visionnant des images, quoi, des vidéos, voir à quel point c'est physique. Mais c'est un sport aussi mental, quoi, parce que déjà, rien que la concurrence, ça peut mettre un coup, on va dire, au moral, parce que c'est difficile d'atteindre le top au niveau. Et puis, même... dans tous les sports, on va dire, tu as des épreuves à passer, etc. Et ils ne se rendent pas forcément compte que dans le tennis de table aussi, tu passes par ça, par ces états-là, que ça soit le stress, que ça soit la colère. Enfin, tu as plein d'émotions par lesquelles tu passes. Et en fait, y a beaucoup de gens qui, je pense, qui ne se rendent pas forcément compte. Et même au niveau physique, enfin, je pense que c'est là où il y a le plus de préjugés, on va dire. Pour moi, forcément, c'est embêtant parce que on a l'impression qu'on dénigre un peu notre sport, alors que je pense que rien que le fait qu'il soit hyper accessible, c'est génial. Tu peux jouer à n'importe quel âge, il n'y a pas de barrière en fait à ce sport. C'est aussi une des forces, je pense, du tennis de table, mais. C'est embêtant, mais d'un côté, après, je pense plus on le médiatisera, plus on comprendra que c'est un sport qui est plus physique qu'il en a l'air.
tu comprends le désintérêt des médias parce que objectivement, quand en fait, il suffit en toute honnêteté de regarder un match à la télé pour se rendre compte de la difficulté et du spectacle que c'est parce que c'est hyper. En fait, il y a du suspense tout le temps. Enfin, il y a des points tout le temps. Enfin, voilà. Donc, ça t'attriste ça?
En fait, d'un côté, je peux comprendre qu'il soit difficile à médiatiser parce que même si les règles sont simples, on va dire, un match est quand même long. Enfin, 30 minutes, 40 minutes et dans ce soir, c'est aussi pas mal de services remis, c'est des petits échanges. Ouais. Des fois, en fait, il y a très rarement, enfin pas très rarement, mais il y a rarement des échanges qui durent plus de 15-20 secondes. Quoi. Ça peut arriver, ça dépend des styles de jeu, bien sûr. Mais le tennis de table à haut niveau, c'est que des petits détails. Et je pense que c'est difficile de le voir ça à l'œil nu, enfin quand t'as pas forcément les connaissances, etc. Mm-hmm. Mais pour moi, juste passer peut-être des best-of ou des choses comme ça, c'est, je pense, des choses qui peuvent faire du bien à l'image de notre sport. Mais ça progresse quand même parce qu'au championnat du monde, ils l'ont transmis sur l'équipe.
Ouais.
Donc, et il y a eu des bons retours, donc c'est cool. Et, voilà, d'un côté, je le comprends. Et puis, d'un autre côté, je pense qu'on peut quand même trouver des solutions pour essayer de le médiatiser un petit peu plus.
Ouais, sachant, tu dis ça, alors sans vouloir faire de parallèles, parce qu'on n'est pas obligé de faire des parallèles tout le temps, mais le tennis aussi, c'est vachement service, remise. Ouais. Les échanges sont peut-être un tout petit peu plus longs, mais on est quand même sur une structure de match qui est similaire.
Ouais.
Et c'est quand même un des sports qui est le plus médiatisé au monde.
C'est clair.
Bon, la balle est un peu plus grande, les raquettes sont un peu plus grandes et le terrain est un peu plus grand.
Non, c'est vrai, c'est vrai.
Mais sinon, c'est vrai qu'on est, globalement sur des choses similaires. Est-ce que tu penses pas aussi que malheureusement, comme les Européens et plus particulièrement les Français aussi, ont du mal à émerger depuis des années, que du coup aussi les médias et le peuple français qui est quand même sacrément chauvin et qui aime la France qui gagne, se désintéresse aussi un peu du sport à cause de ça?
Bah oui, je pense que forcément, on a plus tendance à médiatiser les sports où il y a de la diversité, on va dire, dans les résultats. Même si, par exemple, au tennis, c'est souvent Nadal qu'on a vu, Djokovic, etc. C'est quand même des personnalités fortes. Et en même temps, dans le tennis, tu as quand même plein de tournois où il y a différents gagnants, etc. Dans le tennis de table, c'est vrai que souvent, c'est les Asiatiques.
Ouais.
Et c'est, d'un côté, c'est à nous de progresser, quoi, on va dire. Mais je pense que... là, en ce moment, en tout cas, le ping français, je pense qu'il est sympa à voir. Chez les garçons, je pense qu'on en parle beaucoup. Les frères Lebrun, franchement, ils sont incroyables. Et puis, chez les filles aussi, on a une bonne dynamique. Donc, je pense que c'est sympa à voir. Et que même, comme je l'ai dit, chez les filles, il y a de plus en plus de surprises. Il y a, par exemple, des Roumaines qui arrivent à faire des petits exploits, etc. Donc, forcément, tu ne peux pas regarder tout un parcours, mais voir quelques matchs où il s'est passé des surprises, où il y a eu un peu de suspense, où les favoris sont tombés, je pense que c'est toujours cool à voir.
Alors, t'as dit plein de choses sur lesquelles j'ai envie de revenir. Mince. Déjà, c'est vrai, quand tu disais il y a une domination asiatique, comment tu l'expliques? Parce que c'est vrai que depuis toujours, disons les choses, là, j'ai regardé le classement chez les femmes. Les six premières, c'est des Chinoises.
Ouais, c'est ce qu'on se dit à chaque fois qu'ils sortent le classement, on se dit « oh là là
!» Et dans les 10 premières, c'est quasiment effectivement que des Asiatiques, Japon, Corée, voilà. Comment t'expliques ça?
En soi, il n'y a pas vraiment de secret parce que en Chine, le sport national, c'est le tennis de table. Donc, les moyens, ils sont là. On va dire que c'est ancré dans la culture, même en général. Tous les enfants ont déjà fait du tennis de table et même, tu as l'impression qu'ils jouent super bien. Je suis allée une fois en Chine. J'avais l'impression que même celui qui faisait tout ce qui est l'entretien de la salle, tout ça, il jouait bien. Donc, en fait, vraiment, tout le monde est passé par ce sport. Donc, forcément, ça relève aussi un petit peu le niveau. Et puis, les connaissances qu'ils ont, je pense qu'il y a beaucoup d'études faites là-bas. Ils utilisent énormément la science pour aider à avancer dans le sport, etc. Et puis, comparé à l'Europe, où c'est un sport, on va dire, populaire, mais qui n'est pas le plus populaire. Donc, on va dire que c'est, je pense, une des raisons principales. Mais après, comme j'ai dit, je pense que ça avance un petit peu et que je pense qu'on est là sur la bonne voie, en tout cas, pour voir quelques évolutions dans le tennis de table.
C'est un sport aussi en France et en Europe qui a du mal à se professionnaliser. Parce que ça, c'est aussi important de le dire. Forcément, quand tu peux le faire de façon professionnelle, sans avoir un métier à côté, où c'est forcément aussi plus facile, entre guillemets, de pouvoir en vivre. Donc,
c'est clair, vu que c'est pas un sport, on va dire, hyper populaire, forcément, c'est difficile d'en vivre. En tout cas, il faut forcément... À part à très haut niveau, mais il faut y accéder pour ça. C'est difficile, on va dire, de faire que ça et de pouvoir être dans des bonnes conditions. Donc, c'est compréhensible aussi. Donc,
Ouais, c'est pas déprimant, hein, des fois, de se dire, OK, en fait, Bah, quoi que je fasse, les Asiatiques seront toujours devant moi et je pourrai jamais faire de résultats. Au contraire, c'est un moteur pour toi.
Pour moi, c'est un moteur. J'ai qu'une envie,
c'est de mettre le petit drapeau français dans les drapeaux chinois.
Ah, c'est ça. J'ai qu'une envie, c'est de les battre et de pas qu'une seule fois d'être une menace, on va dire, de manière permanente. Pour l'instant, il y a encore du chemin, tout ça. Enfin, il y a du travail à faire, mais c'est l'envie que j'ai, quoi. C'est vraiment, je suis animée par ça parce que j'en ai perdu tellement que je pense que tout le monde en a perdu beaucoup, mais enfin, vu que j'ai vraiment envie de faire des belles choses dans ce sport, et bah, ça va forcément passer par ça. Je pense que je vais encore en perdre plein, mais je pense qu'il y a, voilà, ça. En tout cas, j'y crois vraiment, quoi, que je peux réussir à les battre ou en tout cas à créer des surprises.
Tu penses que ça va passer par quoi ?
Bah, déjà beaucoup de travail parce qu'on a, en particulier dans mon jeu, mais je pense en général, j'ai quand même encore pas mal de lacunes. Elles qui ont des jeux, on va dire, super réguliers et moi qui suis plus dans. On va dire, c'est plus moi, les premières balles, je suis beaucoup sur les variations, mais je manque un peu de stabilité dans mon jeu d'une manière générale. Donc il faut, voilà, on va dire, essayer de combler ces lacunes ou en tout cas être assez stable pour pouvoir à peu près rivaliser à ce niveau-là. Mm-hmm. Puis après, ça va passer par aussi faire des surprises, quoi, dans le match, parce que si tu t'essayes de faire comme eux ou un copier-coller, bah, vu qu'elles sont déjà super fortes à ça, ça marche pas. Il faut réussir à imposer un style de jeu différent tout en ayant une certaine maîtrise, on va dire, des bases. Et donc voilà, et après, je pense qu'il faut un mental où tu sois prêt à encaisser, quoi, parce que bah, tu, comme j'ai dit, tu vas en perdre beaucoup. Le plus important, c'est à chaque fois d'essayer de se relever et de se dire, ah bah là, j'en rejoue une, c'est l'occasion là d'essayer des nouvelles choses, de peut-être gratter un set de plus, et puis après, bah, un jour, moi je pense vraiment que c'est après que c'est possible, quoi.
Tu parlais de la science aussi, tu disais qu'ils mettaient en place dans les pays asiatiques, ils utilisaient effectivement des données scientifiques pour améliorer leur tennis de table. Ça consiste en quoi ? Vous le faites aussi, vous, en France ?
On en fait un petit peu. Là, par exemple, on n'a pas fait récemment, mais il y a plusieurs mois, on a fait de la biomécanique. C'est avec l'aide de l'INSEP, justement. On a des sortes de... pas des costumes, mais ouais, des choses comme ça, où on est équipé avec des puces qui sont reliées à des ordinateurs. Enfin bon, je ne connais pas tous les détails. Hein, on va éviter de, voilà, de dire des bêtises, mais en soi, ça nous permet de détecter nos mouvements, si on a une surutilisation de l'épaule, d'accord, si on a des compensations au niveau du bas du corps. Enfin, c'est plein de choses qui nous aident soit à vérifier ce qu'on voit à l'œil nu, ce que les entraîneurs voient, etc., ou nos sensations, enfin, ceux des joueurs, ou à justement voir des nouvelles pistes. Par exemple, je ne sais pas, je n'utilise pas assez l'avant-bras, alors qu'on sait que l'avant-bras, c'est super important pour la qualité, des choses comme ça, quoi. Enfin, on se rend compte qu'il y a plein d'outils, quoi, pour essayer de progresser. Après, bien sûr, le plus important, c'est la réalisation à la table, et puis surtout en match. Mais c'est des petits outils comme ça, je pense, qui font qu'après, bah, tu peux être encore plus performant le jour J.
Ouais, on a vraiment l'impression que dans le tennis de table, c'est de la dentelle, quoi. C'est du... Ouais. C'est du... de la précision, plus. Ouais. C'est assez hallucinant, je trouve, la moindre inclinaison de raquette. C'est vrai que quand on est néophyte et qu'on ne connaît pas, on a tous l'impression qu'on peut être champion de France de tennis de table. Non, mais sincèrement... Non, mais tu vois, je pense que les gens associent ça en disant ouais, bah, non, mais moi j'étais trop fort au collège, ça, tu vois. Sauf que, effectivement, quand on vous regarde et quand on voit les effets, toutes ces choses-là, c'est hyper impressionnant. C'est vraiment de la minutie, je sais pas comment.
Ouais, c'est ça, bah rien que.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les effets, tu peux te tromper juste un tout petit peu de degré d'inclinaison ou quoi, et bah, tu vas la mettre dans le filet ou ça va sortir dehors. Même au niveau technique, si ton pied droit, par exemple, il est pas bien placé, bah il se peut que ton geste il soit faussé. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et ouais, c'est beaucoup de détails sur la technique, sur les ajustements ou du corps, bas du corps, les effets. Enfin, ouais, il y a plein de détails à avoir, on va dire, pour être une bonne joueuse. Quoi.
Ouais, c'est hyper impressionnant. Et tu le disais tout à l'heure, tu dis oui, mais ça commence à bouger un peu. Mais en France, il commence aussi à avoir des résultats, des surprises. Tu parlais des frères Lebrun, effectivement, Félix et Alexis, qui sont hyper jeunes aussi. C'est quoi, 16 et 19, je crois,
ouais,
c'est ça,
c'est ça.
Qui ont mis en, qui mettent en lumière ces derniers mois aussi et beaucoup plus le tennis de table. Là, vous êtes une génération de maxi jeunes qui font un peu bouger le tennis de table français.
Ouais.
Tu sens qu'il y a une espèce d'émulation là en ce moment?
Ouais, bah c'est surtout grâce à eux, on va dire, parce que Alexis a battu le numéro 1 mondial, Félix a 16 ans, ce qu'il fait, c'est juste hallucinant. Puis je pense que on a aussi un peu des parcours atypiques, enfin que ça soit eux déjà, que ça soit deux frères, ouais. Et puis même par leur jeu, enfin ouais, et puis je pense que ils deviennent aussi attachants d'une manière, donc forcément t'as envie de continuer à les voir, tu sens qu'ils ont les pieds sur terre, qu'ils savent où ils veulent aller, tout ça, donc je pense que c'est pour ça aussi que c'est sympa à voir, et puis ils ont des jeux sympas aussi à regarder, où on sent qu'ils s'amusent quand même tout en essayant de gagner, donc c'est, ouais, c'est cool.
C'est rigolo, je sais pas si c'est mon terme, mais j'ai l'impression, en tout cas, quand de loin et quand on observe que déjà c'est un sport que tu peux quand même pratiquer assez tard, et que avec l'âge tu deviens pas forcément moins bon en tennis de table.
Ouais, tu peux le pratiquer plus tard. Après, enfin, ça dépend de l'objectif qu'on a, etc. Bien sûr, mais il y a quelques exceptions. Par exemple, je crois que là, le numéro 4 mondial, c'est un Brésilien, Hugo Calderano. Il a commencé à 14 ans, je crois.
D'accord. Ouais,
après, c'est un génie, je pense. Il sait faire plein de choses. Il a beaucoup, beaucoup de qualités qui ont fait que ça a accéléré le processus, tout ça. Mais oui, c'est un sport, en fait, vu que c'est super régulier, on va dire, que ce soit les entraînements, t'es forcé, on va dire, d'acquérir des bases qui sont nécessaires, on va dire, à tout niveau, que ce soit ton coup droit, ton revers. Et même si, par exemple, tu t'arrêtes, je ne sais pas, un mois, deux mois, trois mois, il va te rester des sensations, on va dire. Tu vas forcément perdre quelques repères, tout ça. Mais on va dire, les bases, elles seront ancrées. Et ouais, enfin voilà, après, ça passe beaucoup par de la répétition et du travail. Mais tu perds pas, enfin, je pense pas que tu perdes facilement ce que tu as eu dans tes étables. Après, bien sûr, si tu veux en faire du très, très haut niveau, bah, c'est important de bien gérer ces jours-là, ces jours off, etc. Mais je pense que c'est un sport où, quand on a fait il y a 10 ans, par exemple, et que tu veux rejouer ou que tu veux remontrer à quelqu'un que tu sais jouer, etc., je pense que tu en es capable, quoi. C'est pas...
Ouais, ouais. Et puis, on parle pas assez aussi de la condition physique dans le tennis de table, parce que justement, c'est un peu moqué en disant, dans le tennis de table, tu n'as pas besoin forcément d'être un athlète.
Ouais.
Attention, je mets des guillemets. Alors que c'est complètement faux. Moi, en préparant cette interview, je regardais des vidéos de toi. Déjà, juste sur tes appuis, c'est hallucinant comme t'es en squat tout le temps, en fait.
Ouais, c'est ça. Bah, il faut être basse sur les appuis pour, on va dire, avoir les bons contacts balle-raquette. Et puis, en soi, même moi, en débutant le tennis de table, je pensais pas que la dimension physique était aussi importante. Je savais que c'était important, comme dans tout sport. Mais là, on en fait tous les jours. Et en fait, c'est super complet comme sport. Tu as besoin d'une épaule solide, des jambes aussi solides, un gainage qui soit fort. Il ne faut pas que tu sois comme un chewing-gum, on va dire. Sinon, bah, c'est difficile d'attraper des balles. Mais en même temps, il faut une agilité, une coordination, on va dire. Ouais, il faut que tu sois capable d'être assez flexible parce que des fois, tu dois aller chercher des balles loin.
Non, ouais.
Tu dois te baisser dans des situations un peu particulières. Enfin, en fait, il faut de tout. Et c'est ça qui est super bien, quoi, parce que... il y a tout le temps des nouvelles choses à travailler, donc c'est sympa.
Et c'est un vrai sport et c'est physique ?
Ah oui, bah clairement, quand là j'étais en vacances, j'ai repris le cardio.
Il est parti.
Ah oui, c'est ça.
Il est resté en Inde.
Il y a besoin un peu d'oxygène, quoi, à chaque fois. Mais c'est un sport, en plus, vu qu'on se déplace beaucoup en latéralité et que bah, la norme, c'est bah, quand on se déplace, nous, c'est vers l'avant, voilà. Et bah, les appuis, ils sont directs, la différence. On sent que t'as les adducteurs qui sifflent direct. Même l'épaule, on n'est jamais habitué à autant charger une épaule. Même la différence entre ton bras dominant et ton autre bras, etc. Non, franchement, c'est un sport... quand tu reviens, t'es obligé de passer par du physique un petit peu chez toi ou en vacances. Mais c'est jamais la même chose quand tu reviens à la table parce que... c'est ouais, quand même différent. On va dire que ça a ses propres spécificités et donc c'est pas la même chose quand tu reviens à la table.
Je retiens les adducteurs qui sifflent.
Ça, c'est mon préparateur physique qui dit, donc j'ai sorti.
J'avais jamais entendu ça. Du coup, vraiment, je me suis imaginé des adducteurs, tu sais, qui faisaient des petites mélodies. C'est génial. J'adore. Mais ouais, non, effectivement, mais je trouve que c'est important aussi d'en parler, tu vois, de mettre en lumière ça, mm-hmm. parce que... Alors, ça change, tu l'as dit et tout, mais effectivement, je pense que c'est un sport qui souffre d'énormément de préjugés qui mm-hmm. sont complètement faux et infondés. Et c'est vrai que, bah, alors c'est différent, mais c'est en paratennis de table aussi, la France, pour le coup, brille très fort, je crois.
Ah, mais ils sont super forts, vraiment. Il y a tout le temps plein de médailles. Enfin, ils sont super bons, quoi. Donc, c'est top aussi pour le sport et même pour la France en général.
C'est vrai qu'on parle souvent des sports olympiques, mais ça peut être c'est intéressant aussi. Pour le coup, le sport paralympique est encore moins mis en avant. Ouais. Et là, pour le coup, c'est une des délégations à chaque fois qui ramène le plus de médailles à tous les Jeux olympiques. Donc, c'est cool aussi de voir que dans le clair. Para, ça fonctionne à fond. Et pour le coup, je crois qu'on a même des
champions olympiques. Même,
des champions olympiques et des médaillés olympiques qui ont plus de 50 ans.
Ah oui, il y a vraiment de tout âge. Je crois qu'il y a même une fille super jeune qui a mon âge, qui a soit déjà fait championne olympique ou une médaille.
Léa Ferrier.
Oui, c'est ça. Mm. Et puis après, ouais, ça peut aller à haute.
Kamka Somfou.
Oui, exactement.
Qui a fait médaille à plus de 50 ans, je crois.
Oui, c'est ça. Donc, c'est fou. Hein. Bah, donc, c'est, je pense, des belles images à voir aussi.
Est-ce qu'il faut être un peu obsessionnel pour faire du tennis de table?
Ouais, je pense qu'il faut un peu l'être. Je pense qu'il faut... beaucoup penser à son ping pour être vraiment bon. Après ça, je pense pas que ce soit que dans le tennis de table, à mon avis. Enfin, après, je sais pas trop, vu que je suis pas athlète professionnelle dans d'autres sports, mais je pense que si tu veux un jour vraiment performer, etc., je pense que t'es obligé d'avoir une réflexion, on va dire, quotidienne de tes progrès, de ton évolution, de ton projet, tout ça, si tu veux aller plus loin, quoi. Mais ouais, je pense qu'on a un petit côté où on pense qu'à ça. On est peut-être un peu égoïste, quoi, je pense.
Bon, c'est pas égoïste, c'est... Vous êtes focus sur votre sport.
Oui, voilà,
score,
c'est
quoi.
Ça, mais il se peut que des fois, même à table, on parle de ping, quoi. Après, je sais pas si ça, d'autres sportifs le font aussi, mais...
J'imagine.
Ouais, c'est, je pense aussi, mais... Ouais, c'est ça, t'es à table, t'es dans une... Enfin, t'as envie de passer du temps avec ta famille, mais je sais pas, t'as envie de parler de ce que... Enfin, du ping, quoi, en général, donc voilà.
Est-ce qu'il y a un profil type, justement, du pongiste?
Je pense qu'il y a des préférences. Après, il y a pas... Enfin, dans le sens où, par exemple, si bien de... pas être trop grand, on va dire.
D'accord.
Mais bon, après, en soi, c'est quand même assez large, quoi. Trop grand, c'est vraiment, si tu fais, genre, je sais rien, 1m85, 1m90, quoi. Après, tout le reste, ça va. Et puis, même si t'es trop grand, tu peux, on va dire, trouver des solutions pour justement pouvoir quand même jouer au ping. Puis après, non, je pense pas qu'il y ait d'autres spécificités à avoir. À part la taille, pour moi, c'est... Non, après, en fait, ça s'apprend. Pour moi, par exemple, la réactivité qu'on a, moi, je pense pas qu'à 7 ans, je l'avais. C'était juste à force d'en faire, et tu t'habitues, tes yeux s'habituent, etc. Et puis, ouais, voilà, pour moi, c'est surtout ça, quoi. Mais je pense pas que... Sinon, il y a un profil type à avoir. Quand... Après, dans le très, très haut niveau, forcément, on sent qu'il y a des gens qui se ressemblent, en particulier les Asiatiques, mais on sent quand même que les différences en soi, elles font pas perdre, on va dire. C'est même des fois des forces, parce que ça peut caractériser ton jeu d'une certaine façon, et ça peut justement te rendre différent, et justement, ça peut surprendre, quoi, l'adversaire. Donc, voilà.
Tu parlais de la vision, mais du coup, c'est important ça dans le ping, pour le coup, parce que les frères Lebrun, en l'occurrence, ils jouent avec des lunettes.
Oui, ils jouent avec des lunettes, sauf que par exemple, Félix, je pense qu'il a la meilleure réactivité. Enfin, en tout cas, que moi, j'ai jamais vu, je pense. Même les préparateurs physiques qui l'ont déjà testé ici, etc., ils l'anticipent super bien. Par exemple, on fait un exercice où t'envoies plein de plots, il faut tous les rattraper, il va tous les rattraper, même avec des lunettes où on a, par exemple, des lunettes qui te cachent la vue, par exemple, une seconde, ou des choses comme ça. Enfin, c'est un outil encore qu'on avait, etc. Mais ouais, c'est quand même important, on va dire, parce que ça te fait gagner du temps, et le temps, c'est super précieux dans le tennis de table. Ça se joue à quelques millièmes de seconde même, mais ça peut te permettre d'être bien placé, ou justement de voir où l'adversaire est placé, des choses comme ça, de fixer un petit peu plus. Et non, après, en soi, je pense pas qu'il faut des je pense que évidemment si tu as des problèmes de vue trop importants, ouais, bah ça peut être
handicapant.
Ouais, c'est ça, ça peut être gênant, mais je pense enfin en tout cas à leur niveau, j'imagine pas que ça soit hyper handicapant.
On a la sensation aussi que du coup vous créez tous des, toi t'es gauchère aussi, ce qui a un avantage dans le ping.
On me pose souvent la question, moi en tout cas je pense que c'est, enfin je suis contente d'être gauchère par exemple là. D'accord. Après réflexion je me dis ouais, je préfère être gauchère quoi.
Il y a plus de droitières que de gauchères.
Ouais, c'est ça, et ça surprend un petit peu plus après vu que en même temps il y a plus de droitiers, bah quand ils nous jouent ensemble on a les mêmes avantages, c'est comme un effet miroir un petit peu. Ouais. Donc il y a pas de, c'est plus ça te rend un petit peu unique quoi, on va dire, ça te rend différent.
C'est quoi ta spécificité si tu veux si tu devais en citer une?
Moi, ma spécificité, je pense, c'est la gamme de coups que je peux faire, par exemple, surtout au service. Je pense que je peux faire pas mal de services et les varier à différents placements, différents effets. Puis après, comment tu les utilises, des choses comme ça. Je pense que c'est toutes mes variations, en fait, qui font un petit peu ma spécificité.
On parlait tout à l'heure de l'aspect mental. J'ai lu plein de choses sur toi, sur des interviews et même des entraîneurs et tout, qui disaient que tu étais quelqu'un d'assez calme, mature et que... Alors ça, c'était pas marqué comme ça, mais en gros, que tu avais tout d'une grande sage à 18 ans. Ça, c'est moi qui l'invente.
Ouais, okay.
Ça, c'est un truc que tu as travaillé ou c'est quelque chose qui est inné chez toi?
Non, je pense que c'est un peu naturel. On va dire que assez jeune, j'arrivais à faire des séances assez longues ou assez intenses. J'avais, je pense, une capacité de concentration assez importante par rapport à mon âge. Et puis, après aussi, je pense que c'est dû aussi un petit peu à ma culture, l'éducation que j'ai eue par mes parents. On va dire cette sérénité, je pense aussi que je l'ai un peu de ça. Et puis aussi de mon caractère, je suis quelqu'un d'assez introverti, on va dire, qui ne montre pas forcément beaucoup ses émotions, même si c'est en voie de progression.
Bravo.
Non, mais je pense que c'est pas mal naturel, à mon avis.
Mais ça, pour le coup, dans le ping, ne pas montrer ses émotions, c'est plutôt un point fort, non?
Non, ce côté-là, c'est plutôt un point fort parce que tu es illisible. Mais après, pour, par exemple, t'exprimer, ouais, t'encourager, tout ça, j'ai quand même eu un peu de mal, on va dire, à sortir ma voix ou des choses comme ça. Mais ouais, là, maintenant, je pense avoir trouvé un bon équilibre entre les deux.
Tu veux juste... je pensais que t'allais continuer.
Non, j'avais plus rien à dire.
Pardon. Tu parlais de ta culture aussi. Tu dis, ça fait partie de moi, c'est mon éducation et tout. Ça a une grosse place encore aujourd'hui dans le sport, dans ton sport, ta famille, la culture indienne.
Ouais, je pense que ça fait quand même partie de mon identité, de qui je suis. Et puis, je pense, en fait, je le prends comme une force parce que avoir une double culture, que ce soit française ou indienne, chacune a ses points forts et on va dire c'est point faible entre guillemets, mais j'essaie d'en tirer le meilleur des deux côtés. Et ouais, je pense que c'est quand même super bien quoi, d'avoir ces deux visions, on va dire, que ce soit du sport ou même de la vie en général. Ça te fait grandir, même que ce soit en tant que sportive ou même en tant que personne. C'est top quoi.
On parlait du côté obsessionnel tout à l'heure, mais justement tu arrives à t'extraire quand même du ping et à ne pas penser à ça tout le temps et à avoir, de faire d'autres choses à côté, d'autres passions. Tout ne tourne pas autour du ping?
Non, forcément, même il y a des fois où t'en as un petit peu marre, on va dire, du ping, parce que c'est quelque chose qu'on fait tous les jours et je pense que t'es obligé, à un moment, de faire une petite pause pour juste un peu recharger les batteries, que ce soit surtout au niveau mental, pour repartir. Mais j'aime bien, par exemple, cuisiner, surtout les pâtisseries, des choses comme ça, quand j'ai du temps. Après, j'aime bien passer du temps, que ce soit avec ma famille ou mes amis, ou regarder des séries, et lire des livres. Enfin, j'essaie de, de me divertir aussi comme je peux, quoi, en dehors aussi du ping.
De décrocher?
Ouais, voilà.
T'aimes le foot ou pas? Parce que je t'ai vu avec plein de maillots, j'ai vu Manchester United sur tes photos et tout.
D'ailleurs, il y a eu plein de commentaires dessus, mais en soi, je ne supporte pas une équipe en particulier. Hein. C'est juste j'aime bien le foot. Mais...
tu pratiques un peu d'autres sports ou
Franchement, je n'ai pas vraiment le temps pour en faire. Ouais. Par exemple, en prépa physique, des fois, on peut faire un tennis-ballon ou du tennis un petit peu. Donc voilà, après, j'aime bien aussi le tennis. Ouais. J'adore regarder le tennis, tout ça, mais non, sinon, j'ai pas trop le temps de pratiquer d'autres sports.
Eh bah, ben écoute, et on va dire dernier sujet forcément parce que tu n'y manqueras pas vu que c'est quand même dans un an, les Jeux Olympiques de Paris. On en parlait au tout début, en fait, on a ouvert sur ça parce que c'est dans un an. La fameuse question qu'on a dû te poser 2500 fois, mais ça représente quoi pour toi les Jeux en France devant ton public? Enfin, tu vois, il va y avoir ta famille, tes amis.
Franchement, j'ai des étoiles dans les yeux quand à chaque fois j'y pense, quand on me le dit. Parce que même ça me fait plaisir de répondre à cette question parce que je me sens vraiment chanceuse en fait de pouvoir être vraiment une actrice, on va dire, de cet événement parce qu'on sait que c'est arrivé il y a 100 ans. Donc forcément, bah, notre génération, elle est super chanceuse. Mmh. Et puis, bah, les Jeux Olympiques, c'est le rêve de tous les athlètes, quoi. C'est la plus grande compétition qu'on puisse faire pour presque toutes les disciplines. Et donc, remporter une médaille ou voir un titre, c'est, je pense, quelque chose d'incroyable, quoi. C'est dur à expliquer parce que bah, c'est le rêve qu'on a depuis qu'on souhaite en faire notre profession. Donc, non, pour moi, c'est vraiment l'objectif ultime. Pas forcément ces Jeux-là, mais déjà, les Jeux à Paris, je pense, franchement, rien que d'y penser, j'ai hâte, quoi.
Déjà, pour l'ambiance, ça va être
extraordinaire. Ouais, c'est ça. C'est rien que s'appuyer sur le public. En plus, ça va principalement se dérouler en Ile-de-France à Paris. Moi, j'ai grandi ici, donc c'est comme à la maison, quoi. Et c'est une force supplémentaire avec laquelle il faut que je m'aide pour, on va dire, justement me transcender et utiliser cette énergie de la meilleure façon possible.
Tes objectifs, parce que c'est vrai que toi, au final, tu concours, on n'en a pas parlé, mais tu es en individuel, tu es en double féminin, double mixte aussi, avec qui tu fais des très bons résultats, pour le coup, aussi en double. En individuel aussi, mais en tout cas en double, là, sur les championnats du monde, vous avez fait un quart, par exemple, je crois, avec Simon. C'est quoi, comment tu envisages tout ça? Est-ce que tu as des envies plus particulières sur certaines catégories ou pas?
Déjà, j'aimerais bien faire les trois tableaux. C'est les simples, le double mixte et le par équipe. Le double mixte, il va falloir aussi batailler parce qu'il y a une autre paire française qui est très, très forte. En simple et en par équipe aussi, c'est pas fait. Enfin, il reste un an. C'est à nous, les joueuses, de faire des très bons résultats et de montrer qu'on a la place pour participer à cet événement. Mais en fait, c'est difficile de me donner des objectifs parce que là, je viens de rentrer tout récemment dans le top 50. Ouais. Et c'est bien, il y a un petit suivi.
46, 47.
Là, peut-être un peu baissé 49 parce qu'avec quelques tournois, mais oui, c'est ça. Parce que ça dépend aussi beaucoup du tableau et de comment je vais avancer là, dans l'année à venir. Mais ouais, franchement, je peux pas dire parce que, évidemment, le rêve, ça serait de faire une médaille et que ça soit. Franchement, je prends dans n'importe quel tableau. Mais comme j'ai dit, ça va dépendre de plein de choses. Et pour l'instant, je me fixe des objectifs plus sur les événements qui vont arriver, quoi. Et quand ça sera le temps de réfléchir à ce que je veux faire pour Paris, je pense que je saurais dire plus clairement, quoi. Mais pour l'instant, c'est surtout avancer comme je peux dans les mois à venir pour justement me positionner le mieux possible pour Paris.
Ce sera pendant ton anniversaire en plus, donc tu auras 19 ans plus ou moins. Non, 20 ans, pardon. Oui, c'est vrai, ça arrive, pardon. Le temps passe. Tu auras 20 ans, donc tu seras encore aussi hyper jeune. Puis j'imagine que tu te projettes aussi encore derrière sur d'autres compétitions et tout. Donc c'est un peu particulier. Et après, tu as déjà fait aussi une Olympiade, ce qui est quand même assez extraordinaire, mais dans des conditions qui étaient complètement différentes. Il n'y avait pas de public, vous, en plus, pour le coup, à Tokyo.
Ouais, c'est ça.
Donc là, ça va être quelque chose.
Déjà, le fait qu'à Tokyo, il n'y avait pas de public dû au Covid, etc. Et là, il y aura du public. Et en plus, c'est le public français, quoi. Donc, à domicile, enfin, on sait que ça va être complètement différent. Et puis, comme t'as dit, on va dire que j'aurai que 20 ans, donc c'est pas. Moi, je me projette encore plus loin, quoi. C'est pas forcément le pic de ma carrière. Après, si ça l'est, je prends. Hein. Mais en général, c'est plus tard. Mais après, comme je l'ai dit, vu que c'est un événement particulier, rien que le fait que ça soit en France, etc., ça peut des fois faire des surprises, des choses qu'on n'imaginait même pas possibles. Donc voilà.
Est-ce que le fait aussi, tu le disais, tu as grandi en Seine-Saint-Denis, dans le 93, le fait que ce soit en plus à Paris, je crois, c'est à Versailles, je crois, hein, le tennis de table. Donc quand même, dans les environs, ça a une signification encore supplémentaire. Parce que tu viens vraiment de là, quoi.
Oui, c'est clair, j'ai fait toute ma vie ici, moi. Donc vraiment, dans Paris, etc. Non, franchement, évidemment, ça a eu une signification particulière parce que j'ai commencé le ping ici, j'ai fait beaucoup de choses dans la région parisienne, ma famille vit ici, mes amis sont là aussi, je m'entraîne là en ce moment à Paris, donc ouais, c'est, on va dire, quelque chose de top. Et d'un côté, forcément, il y aura des attentes, il y aura... ouais, on va dire que ça ne va pas être tout rose, forcément, mais je pense que c'est... Il faut le prendre de manière vraiment positive et ouais, voilà, essayer de s'en servir pour justement produire le meilleur niveau de jeu possible.
Tu sens quand même une forme de pression sur tes épaules de la part des gens?
Ouais, bah forcément un petit peu, parce que on m'a vu faire par exemple Tokyo, donc on imagine que je vais faire mieux ici, et même les gens d'une manière générale, quand t'es chez toi, t'as envie de briller, le public a envie de te voir briller, donc ça rajoute une pression supplémentaire. Mais comme j'ai dit, moi j'aime bien justement jouer dans des compétitions avec des enjeux. C'est là où en général les meilleurs se révèlent, et vu que mon objectif c'est de faire partie des meilleurs, et faut passer par là, quoi, on va dire. Donc
c'est vraiment important pour toi, j'ai vu que tu l'avais déjà dit dans plusieurs interviews, mais de marquer ton sport. C'est un objectif, vraiment, genre l'objectif ultime pour toi, c'est marquer ton sport.
Ouais, vraiment, parce que, en fait, je pense que c'est aussi cette domination asiatique qui met ça aussi dans la tête, parce qu'on a vu très, très peu d'Européennes
briller.
Ouais, c'est ça, faire des super résultats. Pourtant, franchement, elles jouent très bien. C'est juste que pour l'instant, les Asiatiques ont toujours plusieurs coups d'avance. Et ouais, forcément, réussir à faire ce coup d'éclat ou même ces coups d'éclat, ça serait incroyable, quoi. Ça mettrait dans une autre dimension tennis de table, et ça serait top.
Tu te sens une mission vis-à-vis de ton sport? Pour le démocratiser, pour justement...
Non, pas vraiment, parce que... non, mais je veux pas non plus...
Te mettre une pression.
Ouais, c'est ça, me mettre une pression supplémentaire. Forcément, les objectifs sont là, j'ai envie d'aller très loin, mais je fais ça aussi parce que j'aime ce sport, quoi, avant tout. Donc, ouais, c'est surtout ma passion qui me guide pour ce sport. Je connais un petit peu l'histoire de ce sport, et c'est pour ça que ça me motive d'aller chercher des belles choses, quoi.
Si tu devais, justement, un peu... question pour clôturer, c'est pas vraiment la dernière question, mais c'est pas grave. Si tu devais dire aux gens à Paris, mais venez voir le tennis de table parce que... Complète cette phrase.
Venez voir le tennis de table à Paris parce que vous allez être surpris, justement. En fait, c'est le meilleur moyen pour montrer aux gens que c'est un vrai sport, en fait, je pense. Déjà, je pense que c'est un sport qui est de plus en plus vu, mais là, de le voir en direct dans la plus grande compétition possible, en fait, tu vois tous les meilleurs athlètes, leur préparation, à quel point c'est... précis, c'est fin, en fait, ce qui se passe, etc., l'ambiance. Je pense que, franchement, c'est super chouette à voir. Après, franchement, je suis contente s'ils viennent voir même n'importe quel sport, parce que c'est bien pour la France, quoi, et c'est bien pour l'ambiance générale de tout athlète. Et on sait que le public, ça fait partie... Enfin, ça a une grande place, en tout cas, dans le sport en général. Et rien que de voir une salle remplie, pour moi, c'est super, quoi.
Alors, sache que j'ai pris des places pour le tennis de table.
Ah, c'est super, ça.
Bon, je sais pas. Par contre, on sait pas sur quel match on va tomber. Mais je pense que, justement, c'est un des vrais sports. Alors, tous les sports, comme tu le disais, c'est génial. Allez-y si vous avez l'occasion et la possibilité de le faire, bien évidemment. Mais je pense que c'est un vrai sport à aller voir en live, en vrai.
Oui, c'est ça. Je pense qu'on n'a pas souvent l'opportunité de voir une grande compétition de tennis de table, on va dire... de manière générale, et parce qu'en fait, même à l'échelle nationale, il y en a qu'une, c'est les championnats de France. Après, c'est les tournois de qualification, mais c'est pas la même ambiance. Les championnats de France, c'est d'un tout autre niveau. Là, c'est l'occasion ou jamais, on va dire, de vraiment voir à quoi ça ressemble, et même pourquoi pas d'en faire après, plus tard, si les envies sont là.
Carrément, moi j'en fais toutes les semaines dans le parc à côté de chez moi, et j'ai jamais gagné un match.
C'est le vent.
Mais bien sûr, c'est complètement le vent. Et une dernière question, écoute, merci beaucoup Pritika. Dernière question que je pose à toutes mes invitées. Si tu devais donner ta définition d'une championne, qu'est-ce que tu dirais?
Alors moi, je dirais je pense pas qu'une championne, ça soit forcément quelqu'un qui soit super bon dans un truc. Enfin, je considère que, en fait, quelqu'un qui se montre, par exemple, très généreux ou très généreux dans quelque chose, pour moi, c'est déjà une championne pour moi. Après, ouais, c'est... Franchement, c'est dur à dire. Hein. Mais pour moi, ça n'a rien à voir avec tes capacités, en fait. C'est plus... aussi, peut-être, l'aura que tu dégages et que... qui donne envie aux autres, soit d'être comme toi, soit de faire la même chose que toi. Je pense que c'est important. Parce que... on va dire, tout le monde a un côté champion, je pense, en soi. Et... bon, après, on va dire les très grands champions, c'est peut-être ceux qui arrivent à justement aider les autres, peut-être à révéler ce côté aussi d'un côté. Enfin, pour moi, ça peut être ça, quoi. Je dirais.
Très bien.
C'était peut-être pas super clair, mais j'ai essayé, voilà, de sortir quelques petites phrases qui me paraissaient, pour moi, décrire, on va dire, ce mot-là.
C'est parfait. on a compris, moi, en tout cas, j'ai ressenti, parce que on s'en fout de ma définition de championne. Non, mais je suis d'accord. Moi, je le vois aussi. Après, tu le vois de l'aspect sportif et résultat, ou tu le vois de l'aspect humain, en fait. Voilà. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est toujours intéressant. C'est pour ça que je pose toujours cette question, parce que je trouve que ça montre aussi un peu l'état d'esprit de la personne. Tu vois, c'est... voilà. Donc, bah, voilà. Ok.
Bon, bah voilà.
Bah, écoute, merci beaucoup. Non. Mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup.
Ouais, bah, avec plaisir.
Merci beaucoup. Je trouve ça super d'avoir un éclairage aussi un peu différent et de la part d'une concernée, en l'occurrence, sur le tennis de table, qui est un sport magnifique.
Merci.
Non, mais carrément, tu vois, et qui est sous-coté, on va dire, encore aujourd'hui, même si ça change, et tant mieux. Et allez soutenir nos athlètes français qui sont super, qui font des super performances aussi, il faut le dire, même si on en parle aussi de plus en plus. Et tant mieux. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup
pour cet échange, c'était cool.
De nous avoir aiguillé un peu plus aussi sur ton sport. Est-ce que ça représente pourquoi pour toi? Quoi? Voilà. Pourquoi?
Non, avec plaisir, c'était sympa.
Bah écoute, merci beaucoup Pritika. Je te dis à bientôt. On se croisera probablement d'ici cette année ou même peut-être au jeu, qui sait. Et je te souhaite des super résultats tout au long de l'année et une progression qui n'en finit pas.
Merci beaucoup.
Et puis rendez-vous dans un an.
Exactement.
Merci Pritika, à bientôt.
Merci, ouais, à bientôt.
Salut. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport au féminin. À bientôt!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.